La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale.
Alors, je parlais la semaine dernière avec Fred Bastien Forest, que vous connaissez bien, Frédéric Bastien Forest, et on parlait de technologie, ça cliquait beaucoup, puis je dis, tiens, il pourrait venir de temps en temps nous parler de technologie. C'est le fun de faire des chroniques politiques, mais il y a autre chose aussi que la politique. La technologie, ça fait partie de nos vies, et lui, il connaît très bien ça, puis il va venir nous en parler de temps en temps. Et là, tu veux nous parler de Mark Zuckerberg et de l'intelligence artificielle.
Fred. On s'ennuie, hein, de Facebook, de Mark Zuckerberg, de l'IA. Puis non, c'est intéressant ce que tu dis aussi, Richard, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus politique que la technologie, surtout en 2024. Là, tu sais, ça empiète sur la vie politique puis sur nos vies. Pis...
C'est au carrefour de la culture, l'économie, l'invention, la science et tout ça. Là, tout est là.
Il y en a même qui vont dire que Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ont des puissances plus grandes que certains pays. Là, tu sais, donc, ça devient politique, ça aussi, quand tu sais que Facebook peut avoir un impact sur la politique américaine et canadienne, comme on l'a vu. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de Mark Zuckerberg parce que on parle beaucoup de l'intelligence artificielle dernièrement. Tout le monde parle de l'IA. Tu sais, c'est la course à l'IA. C'est presque une course à l'armement, là, parce qu'on se rend compte que si on a des très, 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 très bons ordinateurs, on va peut-être avoir une longueur d'avance sur d'autres nations, par exemple. Puis,
mais c'est drôle, on dirait que Zuckerberg a comme laissé tomber de côté un peu le monde virtuel, puis tout ça. Il était là-dedans, métavers, puis tout ça. Là, on dirait qu'il a mis ça de côté, puis là, c'est l'intelligence artificielle. C'est ça la grosse affaire.
Ça, c'est la grosse mode. Pour l'histoire du métavers, c'est intéressant parce que ça coïncide quand même avec une nécessité pour Facebook de faire parler d'eux autrement que par leur scandale. Là. Toute cette histoire du métavers, là, il y a à peu près un an ou deux, là, ça coïncidait avec des lanceurs d'alerte chez Facebook qui racontaient que, par exemple, on avait à l'interne caché des rapports très sérieux qui démontraient qu'il y avait un impact négatif sur la santé mentale des adolescentes quand on utilisait trop Instagram, par exemple.
Okay.
Là, ça passait des nouvelles. Là. Donc là, Zuckerberg, il devait trouver... Puis aussi, à ce moment-là, le prix de l'action descendait énormément.
C'est comme une diversion.
Ouais, là, on arrive dans l'hypothèse, mais moi, personnellement, je suis de ceux qui pensent que c'était un moyen de faire un bon spin médiatique sur autre chose. Ouais. Parce que Mark Zuckerberg est un gars intelligent. S'il croyait vraiment qu'on allait tous aller dans un jeu vidéo ensemble, qu'on allait plus être dans un studio de radio, toi et moi, mais qu'on allait toujours rester chez soi, s'il l'a vraiment cru, c'est parce que lui-même, c'est un vrai geek là, qui passe beaucoup de temps sur Internet et dans son métier. Vers à lui. Mais j'ai quand même l'impression que ça faisait du bien aux politiques publiques de la compagnie de plonger un peu là-dedans.
Je t'amène ailleurs. Je sais qu'il y a un plan de conversation. Il y a des choses dont tu veux, mais tu sais, avec toi, j'ai l'impression qu'on peut aller un peu partout.
Vraiment,
là.
Ouais.
Moi, ce que je comprends pas, là, tu sais, par exemple, là, Bruce Springsteen, okay, là, il est sur Broadway, mettons, il fait un show sur Broadway. Là, tu sais, là, comment ça se fait que moi, comment ça fait que personne n'a pensé à ça, que moi, j'ai un casque de réalité virtuelle chez moi, je le mets à 7 heures, je me branche, puis je suis dans la salle et je peux voir le show, puis je paye. OK? Comme on paye pour des combats de boxe, mettons. mettons. Là, ouais. Comment ça fait qu'on ne peut pas faire ça? Moi, je regardais un show de Kiss en réalité virtuelle pendant 1h30. C'était super trippant. C'était très le fun. Comment ça fait qu'ils n'ont pas pensé à ça, de faire ça? Ben, puis au lieu de vendre 3000 billets par soir, ben Springsteen pourrait en vendre 15 millions par soir.
C'est super intéressant. Je pense que c'est peut-être possible. Je trouve que l'exemple de Kiss est bon dans le sens où c'est un band qui est à large déploiement. Donc, tu peux investir dans la captation. T'sais, si tu veux faire quelque chose qui a du bon sens, là, que ce soit pas juste comme t'as l'impression que c'est du monde qui un peu à la hâte, là, ont installé une caméra 3D dans une salle de spectacle, en la mettant dans le fond en se disant on va vendre une coupe de billets de plus pour le monde qui sont pas là. T'sais, si tu veux vraiment quelque chose d'intéressant, ça va prendre un investissement. Donc là, est-ce que les musiciens ont cette fibre entrepreneuriale ou cette volonté de la disruption? T'sais? En tout cas, on le retrouve pas mal plus à la Silicon Valley.
Mais j'imagine qu'un jour, on va l'avoir, ça. Là.
OK, moi je pense que ce type de technologie-là va plus faire mal au monde des jeux vidéo qu'au monde des médias traditionnels puis des films. Okay. Moi, je trouve que regarder un film, c'est vraiment différent que de surfer sur TikTok, par exemple. Puis j'ai l'impression que porter un casque comme ça, c'est juste une autre manière de consommer. Ça va pas nécessairement remplacer notre manière de consommer du contenu parce que, entre vous puis moi, un écran 2D, ça fait quand même la job. T'sais, Bruce Springsteen, je l'écouterais quand même. Ça serait pas aussi immersif, là, mais je l'écouterais quand même sur un DVD. Là, t'sais.
C'est ça. Fait que t'as pas vraiment besoin d'un casque de réalité virtuelle. Le petit plus que ça t'ajoute, ça vaut peut-être pas nécessairement la peine, comme tu me dis.
Ben, ou l'investissement, pour que ça soit assez rentable, pour qu'il y ait assez de Richard Martineau qui achèterait leur billet virtuel pour aller voir Bruce Springsteen. Mais on sait que ça a fonctionné avec Kiss, donc on a notre preuve de concept. On retourne à Mark Zuckerberg puis l'intelligence artificielle. Tu sais, dans le fond, quand je parlais de la course à l'armement, c'est que présentement, plusieurs nations, plusieurs compagnies essayent d'acheter des microprocesseurs. Tu sais, c'est très difficile pour réussir à avoir un meilleur ordinateur, une meilleure intelligence artificielle, ça prend juste plus de compute. Du compute, là, c'est donc des processeurs. Ça se fabrique. Et pendant des années, Taïwan était vraiment un asset important pour l'Occident parce que c'est là où la plupart des microprocesseurs du monde se produisaient. Mais ce que je trouvais intéressant, puis c'est pour ça que je vous parle de Mark cette semaine, c'est qu'il a donné une entrevue à Dwarkesh Patel, qui est un podcasteur sur YouTube exceptionnel. C'est le gars qui fait le plus de recherches que vous pouvez vous imaginer, là, un extrémiste de la recherche, puis c'est pour ça qu'il peut recevoir des gens extraordinaires parce que il a reçu Bezos, entre autres, d'Amazon, il a reçu Mark Zuckerberg. Et dans cette entrevue-là, un sujet super intéressant, c'est Mark Zuckerberg qui dit, attendez, le goulot d'étranglement pour l'intelligence artificielle, là, pour les super ordinateurs de demain, c'est pas vraiment les processeurs, c'est l'énergie. Parce que ces ordinateurs-là, quand on les utilise, ça prend de l'électricité. Tu sais, en toi et moi, Richard, quand tu pars un travail assez exigeant sur ton ordinateur, des fois, on entend la fan partir, tu sais, sur ton ordi. Une fan qui embarque. Mais ça, c'est parce que ton ordinateur a besoin d'être refroidi. Puis ça prend de l'électricité pour partir la fan.
Tu sais, à un moment donné, au Québec, parenthèse, on s'était lancé dans la crypto-monnaie, puis tout ça, puis toute l'affaire, puis on s'est rendu compte que ça coûte très cher, justement, pour refroidir ces systèmes-là qui surchauffent.
Exact. Puis ça, c'est un super bon exemple. La crypto-monnaie, ça exige beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir de calcul, tout comme la fameuse intelligence artificielle générative. Donc, GPT, Midjourney, c'est des images. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de compute, comme on dit en français, beaucoup, beaucoup d'énergie de processeurs. Donc, ça fait chauffer les ordinateurs. Donc, ça prend beaucoup d'électricité pour nourrir les ordinateurs, mais aussi pour refroidir les pièces où ils sont.
Et on n'a pas suffisamment d'électricité pour tout ça?
Bien, ça va être la prochaine étape. Parce que depuis les années 90, dans le monde de l'informatique, il y a ce qu'on appelle la loi de Moore. La loi de Moore fait que c'est exponentiel le nombre de processeurs qu'on réussit à mettre dans un ordinateur depuis les années 90. Ça, exponentiel, là, c'est dur à prévoir tellement ça va vite, tu sais. Puis à date, c'est encore vrai. À chaque année, on réussit à doubler le nombre de processeurs ou presque, tu sais,
à doubler la puissance de nos
ordinateurs. Puis concrètement, on peut le calculer en comptant qu'on met littéralement plus de processeurs dans les mêmes ordinateurs. Ils sont de plus en plus gros. Puis à date, cette loi-là
de plus en plus gros, ça veut dire qu'ils consomment de plus en plus d'énergie.
Exactement. Puis c'est pour ça que le goulot d'étranglement de l'intelligence artificielle, ça va être l'électricité. C'est que pour réussir à entraîner des modèles plus puissants que ce qu'on a, tu sais, GPT, c'est un modèle. C'est comme, imaginez-vous qu'on a, pendant beaucoup, beaucoup de temps, essayé de faire comprendre un ordinateur. On a mis toute la littérature au monde dans un ordinateur. On a mis tout Wikipédia dans un ordinateur. On a mis plein d'articles qu'on a vus sur les articles des 20 dernières années. On a mis tout Twitter avant 2021 dans un grand modèle. Donc ça, ça prend beaucoup, beaucoup de calcul et d'électricité pour le faire. Puis si on continue à ce rythme-là, pour entraîner le prochain GPT, ça prendrait une petite usine nucléaire. Juste pour GPT.
C'est super intéressant. Et Fred, tu sais, moi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils voulaient en finir avec les Japonais. OK? Fait qu'ils ont pris toutes les plus grandes bolles des États-Unis. Ils les ont mis dans le désert à Los Alamos. Ils ont créé une petite ville pour eux autres. Puis là, ils ont dit travaillez à temps plein sur faites-nous une bombe. OK, là, qui va mettre le Japon à terre. Travaillez à temps plein là-dessus, vous ne faites rien d'autre, on va vous payer. Sky is the limit et tout ça. On va mettre l'argent qu'on doit mettre. Ils ont réussi à la créer. T'imagines si on faisait ça, pas dans un esprit militaire, mais on disait, là, on vous met dans le désert, travaillez sur une façon de trouver une source d'énergie qui n'est pas polluante et qui est renouvelable. La fameuse fusion à froid, je ne sais pas trop quoi.
Exact. Oh, oui, exact. Puis,
il réussirait à le faire. Je suis convaincu si on mettait toutes nos énergies là-dessus.
Peut-être. Puis faut dire quand même que l'énergie nucléaire a fait des pas de géant dans les dernières années. Je suis vraiment pas un expert, mais on n'a pas les mêmes réacteurs que Fukushima. Là, déjà, oui. qui était problématique. Puis on améliore. Fait que même avant de se rendre à la fusion, je pense qu'il y a des étapes intéressantes pour l'humanité. Puis sinon aussi, nous, on peut quand même être un peu chauvin. On est super chanceux d'avoir l'hydroélectricité au Québec. Là.
Mais c'est une ressource énorme. Mais t'as vu, Fitzgibbon, il dit, on peut pas, là, il y a trop de projets, il va falloir dire non à certaines personnes parce que nous autres, on va consacrer tellement de blocs d'électricité à Nordvolt qu'il restera plus d'électricité. Même nous, on a une limite, là.
Ouais, puis tu sais, moi, c'est sûr que je suis naïf puis je suis pas au gouvernement, là, mais en tant que citoyen, là, moi, je suis fier que Hydro-Québec nous appartienne puis j'ai l'impression qu'on devrait trouver le moyen de créer plus d'électricité dans les 20-30 prochaines années. Ça va prendre plus de barrages parce que c'est pas juste les chars électriques, c'est pas juste Nordvolt. C'est ce que je viens de dire, c'est les ordinateurs. Mais malheureusement, là, les gens vont pas arrêter d'utiliser leur téléphone, les gens vont pas arrêter d'utiliser leurs ordinateurs, puis l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui consomme 10 à 15 fois plus d'électricité que les serveurs de Facebook. Là, t'sais. Donc ça va dire que pour nos ordis, on a besoin de plus d'électricité. Pour nos autos, on a besoin de plus d'électricité. Peut-être que ça prendrait plus de barrages.
Tu parlais de nucléaire. Là, je lis beaucoup de magazines et de journaux français. Là, en France, là, les écolos sont pour le nucléaire. Oui. Il y a beaucoup d'écolos en disant, comme tu disais tantôt, là, arrêtez avec Three Mile Island et tout ça. Là, on a fait du chemin depuis
exact.
Ce temps-là.
Puis c'est vraiment intéressant aussi parce que Greenpeace, qui pendant longtemps a presque monopolisé l'attention internationale environnementale, là, dans les années comme 90, 2000, début 2000. Mais eux, initialement, c'était un OSBL de lutte au nucléaire. Avant d'être environnementalistes, Greenpeace, ils luttaient. Donc
ça a été mis sur pied pour lutter contre
le nucléaire. Exact. Donc c'est super intéressant de fouiller là-dessus parce que ça les met dans une position un peu compromettante ces temps-ci, dans le sens où peut-être que la meilleure solution pour l'environnement, c'est le nucléaire. Donc, tu sais, si c'est bien fait, puis il n'y a pas d'incident, puis qu'on gère bien les déchets, puis même maintenant, on se rend compte qu'on peut utiliser des déchets nucléaires pour créer de la nouvelle énergie nucléaire. Donc ça, c'est super intéressant. Mais c'est assez récent, mais c'est la preuve que ça continue à se développer, tu sais. Mais grâce à tout ça, on se dit, ben, peut-être que ça ferait passer des pistes de solutions et non plus le grand danger comme c'était dans les années 80. Puis peut-être que certains environnementalistes devraient... Tu sais, c'est toujours la question de la politique du possible puis la politique de l'utopie, tu sais. C'est comme, oui, ça serait magique qu'on vive dans la forêt puis qu'on n'ait pas besoin d'électricité, mais là, on en a besoin. Puis si c'est pas en faisant des gros bassins écologiques qui vont peut-être inonder les forêts pour qu'on ait accès à l'électricité ou en développant notre science pour qu'on puisse avoir des réacteurs nucléaires qui sont pas polluants, ben il va falloir qu'on trouve un moyen d'exister en tant qu'humain là, en 2024.
Écoute, j'ai pas vu le temps passer, mais en terminant, Fred, est-ce que tu es tanné que dès qu'on parle d'intelligence artificielle, c'est tout le temps d'un point de vue négatif? On dirait, toi, t'es monsieur technologie, puis à chaque fois qu'on parle d'une nouvelle technologie, là, on part en peur, là, en disant c'est épouvantable, ça va créer des problèmes, puis tout ça. Oui, mais tu sais, ça va créer aussi des solutions à des problèmes
exact.
Qu'on a.
Moi, je vais y aller avec une de mes expressions préférées. Là. La technologie, c'est comme un marteau. Tu peux t'en servir pour construire une maison ou pour tuer quelqu'un. T'sais, c'est l'humain qui décide ce qu'il va faire. C'est pas la technologie qui est morale ou non. C'est l'humain qui l'utilise. Donc, la technologie, c'est un accélérateur. Puis effectivement, on est de même les humains. Hein. Si on s'imagine tous les scénarios, les pires scénarios qui peuvent arriver, la catastrophe, on se met à paniquer. Ben, c'est ça qui va arriver. Donc, ça prend des gens qui sont optimistes, puis qui voient ça comme des opportunités, puis qui amènent le bateau vers la bonne direction. Une autre bonne expression, le pilote de course là, qui conduit sur son circuit, s'il regarde trop le mur, c'est là qu'il va se ramasser. Donc, ça prend du monde qui regarde la route, puis c'est ce que j'essaie de faire avec l'intelligence artificielle.
Bon. Mais c'est excellent, c'est très bon. Et effectivement, ça peut être aussi utile que ça peut être néfaste. Tu sais, l'affaire, là, comme ils n'auront plus besoin de nous autres, les ordinateurs, là, puis pour se programmer, ils vont s'auto-programmer, puis ils vont gérer, là, ils vont prendre quasiment le contrôle du monde. Puis tu sais, c'est un beau film de science-fiction, là, à un moment donné. Là,
on aime se raconter ça, tu sais, l'humain contre la nature, la technologie contre l'humain. C'est un grand classique. Je vais terminer avec quand même une citation d'un gars de Ubisoft que j'ai entendu récemment qui disait, c'est très rassurant quand même, il dit, n'oubliez pas que l'intelligence artificielle, ça lève pas la barre, ça lève le plancher. Donc, c'est pas les meilleures œuvres qui vont être menacées. C'est juste que, oui, maintenant, tout le monde peut faire un dessin assez médiocre. Maintenant, tout le monde peut réussir à faire ça. Mais c'est pas les plus grands dessinateurs au monde qui vont être menacés par l'intelligence artificielle. C'est juste que maintenant, c'est plus accessible de comprendre ça. Puis, on voit la même chose avec la rédaction de texte, avec jouer aux échecs, avec apprendre une langue. Le meilleur moyen de s'en servir, c'est de le voir comme un allié et non pas comme un opposant.
Ben exactement. On va élever le plancher. J'aime bien ça, moi. J'aime bien ça. Merci beaucoup, Fred Bastien, l'homme à la voix testiculaire.
C'est moi, ça.
Merci. Salut, à bientôt. Mais